Bonjour. Ça va bien? Vous êtes nombreux. Toujours un plaisir de venir à Sainte-Marie. Y a des églises qu'on affectionne plus que d'autres. Je fais pas de liste, mais j'aime bien venir à Sainte-Marie. Ce matin, on va aller dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Mais avant, je voudrais dire quelques mots de publication chrétienne. Je ne peux pas ne pas dire quelques mots de publication chrétienne. Comme vous savez, on est en train de se préparer pour aller à Madagascar pour aller distribuer 1000 boîtes de 37 livres. Ça veut dire, dans une boîte, il y a 37 livres. Dont des commentaires, dont des dictionnaires qu'on va remettre aux frères là-bas. C'est fortement déconseillé de donner les livres parce que les gens là-bas, ce n'est pas des voleurs, mais ils veulent manger. Hein, ils sont dans une pauvreté extrême. Si c'est donné, le risque de voir les gens revendre les livres est trop fort. Fait qu'il faut qu'ils investissent quelque chose. Et c'est une boîte que si je la vendais à Mario, par exemple, là, ça serait autour de un petit peu plus que 1000 $, peut-être 1100 $. Et là-bas, on va la vendre 50 $. Donc, vous comprenez que financièrement, si on était une entreprise, la discussion aurait été assez courte, là. On regarde le plan financier et on dit, on va oublier ça. Mais on n'est pas une entreprise, on est un ministère et on est dirigé par le Seigneur. Donc, on a à cœur de faire ça. On est convaincu que ça va avoir un impact dans la vie des frères là-bas qui vont recevoir ces boîtes. Essentiellement, ça s'adresse à des responsables d'église, à des enseignants, des moniteurs, monitrices d'école du dimanche, pour leur donner des outils pour être en mesure d'enseigner l'Église pour éventuellement glorifier Dieu. Donc, c'est ça qui est le projet. Ça va se faire au mois d'août. Je ne me rappelle plus exactement des dates, là, mais ça coïncide. Et en passant, ces livres-là sont tout simplement pas disponibles là-bas. Ça veut dire que si on leur donnait de l'argent, on ne pourrait pas les acheter, ils ne sont pas là. Donc, on a pensé à quelque chose qu'on a fait une première fois au Niger et aussi au Togo. C'est en train de se faire. Et ça va se faire à Madagascar, c'est-à-dire de permettre à ces gens-là de partir une petite imprimerie numérique. Donc, il y aura des copieurs numériques. Nous, on va fournir nos fichiers et ils vont pouvoir imprimer les livres là-bas pour les vendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on recommande aux frères d'utiliser l'imprimerie 50% du temps pour le commercial, pour faire de la business avec les gens autour, pour faire une rentrée d'argent et 50% d'imprimer des livres chrétiens pour le besoin des frères et des sœurs. Donc, c'est un gros projet, ça aussi. Ça marche assez bien au Niger. Comme je vous ai dit, au Togo, c'est en train de se former. À Madagascar, ça va se faire, je pense que ça va commencer au mois d'août aussi. Et ça va coïncider avec l'ouverture d'un séminaire dans la capitale. Je ne me rappelle plus du nom de la capitale, là, quelque chose. C'est là que ça va se passer. Et là-bas, ceux qui habitent là sont extrêmement sollicités par l'évangile de la prospérité, qui n'est pas un évangile du tout, en fait. Hein? Si quelqu'un annonce un autre évangile qui soit anathème, c'est ça. Ce n'est pas un évangile pantoute, l'évangile de la prospérité. Convertissez-vous au Seigneur, vous ne serez plus malade, vous allez être riche, vous n'aurez plus de dettes, etc., etc. C'est ça. Quand on est allé au Togo, écoutez, ça pullulait les annonces de l'Évangile de la prospérité. Ces gens-là n'ont pas d'alternative. Si on ne débarque pas là-bas avec nos ressources, ils n'ont pas d'alternative. Et on a la conviction, comme vous d'ailleurs, que l'Église à Madagascar, au Togo, en Afrique, n'est pas une Église de second rang. L'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Jésus-Christ. Qu'elle soit n'importe où, ça a la même valeur. Nous, on a le privilège d'avoir des ressources. Quand je dis des ressources, ça veut dire des livres. Dieu nous a mis à cœur de servir l'Afrique. Et quand je dis servir, c'est servir. Et on ne s'en va pas là comme des gens qui veulent colonialiser l'Afrique, mais on s'en va là pour servir. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? On va le faire. Et en même temps, on a réalisé, quand on est allé au Togo, je pense que je vous l'avais dit, que c'est beau 37 livres, tu sais, une boîte de 37 livres, c'est intéressant, mais je suis convaincu que ceux ici qui étudient la Bible ont plus que 37 livres dans leur bibliothèque. Tu sais, je me rappelle, il y a un frère qui nous a. C'est le samedi qu'on a distribué nos boîtes au Togo. Il y a un frère, le dimanche ou lundi, je pense, on a reçu une photo. Il avait fait une étagère au mur en mettant ses livres. Et c'était encourageant, mais j'ai réalisé que c'est pas tant que ça, tu sais, 37 livres, là, c'est. Mettons que si j'avais ça dans ma bibliothèque. Je trouverais que ce n'est pas beaucoup. Donc, on a mis un deuxième projet qui est pour les séminaires et les écoles bibliques de donner cette fois-là, un livre de chacun de nos titres à publication chrétienne et quelques autres maisons d'édition, parce qu'il y a pas que nos livres qui sont bons, il y en a d'autres. Ça fait à peu près 500 livres qu'on a donné au Togo à deux séminaires. Ça veut dire que les frères qui veulent étudier, ils ont accès à 500 livres maintenant. Peuvent aller à la bibliothèque du séminaire pour aller emprunter un volume. Et on fait la même chose avec Madagascar. Actuellement, on est le 14. Les livres qui sont partis du Québec devraient arriver à Madagascar fin mai. Et comme je vous l'avais dit, il y a aussi le commentaire du disciple de M. McDonald, qui lui est parti du Bélarus, 1000 volumes qui s'en vont à la même place. Eux reçoivent les deux conteneurs. Ah, ben nous, c'est un conteneur complet, 20 palettes. 20 palettes de livres. Tu sais, c'est quand même quelque chose. Et je ne sais pas exactement combien ça fait de palettes là, du Bélarus, peut-être 4-5 palettes pour ces volumes-là. Et on est convaincu que ça va faire une différence. Écoutez, au Togo, là, j'ai vu ça, là, quand pas tous les frères, mais certains frères ont ouvert leur boîte et ont vu les commentaires de M. MacArthur. Vous savez, on a fait quatre gros commentaires qui couvrent tout le Nouveau Testament. Il y en a qui pleuraient, là. C'était à Noël pour eux. C'était inespéré comme ressource. C'est très touchant de voir ça. Parce que nous, on les a, tu sais, puis si on en veut un autre, on va l'acheter, puis on attend qu'on. Pas eux autres. Eux autres, c'était inespéré. C'était, comme je vous dis, c'était à Noël et ça a été extrêmement. On s'en allait là pour servir, pour les encourager. On est revenu, c'est nous qui étions encouragés. Et c'est pour ça qu'on veut le refaire à Madagascar. Et on est en train de préparer République centrafricaine. République centrafricaine. Là, c'est 3 000 boîtes. Eux veulent 3 000 boîtes. Il y a Cameroun aussi. Il y a plusieurs pays francophones là, qu'on pense servir de cette façon-là. Moi, je vais aller à Madagascar. Au mois d'août, j'ai acheté mon billet et j'ai dit à ma femme, elle n'est pas super à l'aise, tu sais, que je parte en Afrique comme ça, parce que à partir d'un certain âge, on va dire ça comme ça, pour Là, ça prend toutes sortes de vaccins. T'sais. Il y a toutes sortes de maladies qu'on peut attraper là-bas, la typhoïde, la méningite. En tout cas, j'ai 5-6 vaccins. Elle n'est pas super à l'aise. Et là, j'ai dit, j'ai acheté mon billet, tout ça. Ben, mais j'ai dit, pour que ça coûte moins cher, j'ai acheté ça de Kenya Airways. Là, elle dit, Kenya Airways, elle dit, il n'y avait rien avec Air Canada ou Air France ou. Non, mais je dis, écoute, on verra. Tu sais, c'est des avions comme les autres. Puis on va se rendre. Par la foi, on va se rendre là-bas, puis on verra comment Dieu va diriger. On a plusieurs volumes qui s'en viennent aussi, des volumes importants. Il y a un dictionnaire. Raymond, tu connais sans doute le dictionnaire des mots bibliques de M. Vines. Bon, ce dictionnaire-là, une édition updatée en français, là, je ne sais pas comment on dit ça, mais renouveau. En tout cas, ça va paraître. On donne la commande d'impression d'ici quelques jours. Ancien et Nouveau Testament, les mots grecs et hébreux, exact. En français, évidemment. Donc, c'est un outil qui est très attendu. C'est le genre d'outil que les œuvres missionnaires attendent. On a aussi le dictionnaire Oldman, qui est un dictionnaire en couleur de 2000 pages, je pense. Et les dictionnaires en français, je ne sais pas si vous êtes allé à la librairie, et ce n'est pas parce qu'ils chargent cher à la librairie, c'est parce que c'est ça que ça se vend. C'est au-dessus de 100 $, un dictionnaire en français. Et pour nos frères en Afrique, c'est tout simplement pas accessible. Ils oublient ça. On ne pense pas à ça. Donc, nous, on veut faire un dictionnaire. En fait, il est traduit. On est rendu à l'étape. Quand on fait une traduction, il y a la traduction, la vérification de la traduction et la relecture. Et dans le cas d'un dictionnaire comme ça, étant donné qu'il y a des mots grecs, des mots hébreux. On ne peut pas donner ça à n'importe qui. Ça prend des gens qui ont des connaissances dans les langues originales. Gilles Despins et Bruno Coulombe qui ont fait la révision. Et on est rendu à la mise en page et on veut arriver avec un dictionnaire à 70 $ que je vais vendre à Mario. En Afrique, on veut donner 70 % de rabais. Notre objectif, c'est pas de vendre des livres, étrangement. Évidemment, je ne suis pas tout à fait un vrai fou, là. Il faut faire nos frais, il faut payer nos factures. Mais l'objectif, c'est de diffuser nos ouvrages. Et Dieu pourvoit. Donc, voilà. Il y a un autre projet que je vous partage et après ça, je me lance dans Romain. Avec un ministère en Californie, il y a un projet qui s'appelle Essential MacArthur Library, la librairie essentielle de M. MacArthur. Publication chrétienne, on est les seuls dans le monde qu'on a fait. M. MacArthur a fait un commentaire du Nouveau Testament depuis Matthieu aller jusqu'à Apocalypse. Et ça fait plusieurs volumes. Nous, on l'a fait en quatre gros volumes qui simplifient beaucoup la distribution. Le premier, c'est Matthieu-Marc. Ensuite, c'est Luc-Jean-Actes, les Épîtres de Paul et le restant. Quatre gros volumes. Et ces gens-là, en Californie, nous ont demandé, est-ce qu'on peut reproduire votre projet dans d'autres langues? Parce qu'il y a plusieurs autres langues qui traduisent les commentaires de M. MacArthur. Et ils ont dit, on va faire un projet, ces quatre commentaires-là, plus le livre de théologie systématique, le gros livre blanc, plus la Bible avec les notes de M. MacArthur, ces six volumes-là. On va faire ça. Le projet, c'est d'en faire 10 000 kits. Écoutez, c'est un projet, nous, on a fait les estimations. C'est un projet qui tourne autour d'$1 million US. Et eux, ils n'ont pas ça nécessairement dans leur poche, mais ce n'est pas un obstacle. Et on travaille avec, je ne sais pas si ça, Paul Washer, si vous connaissez Paul Washer. On travaille avec Paul et Paul a dit, écoutez, on va trouver l'argent pour que ça marche. Parce qu'il faut que ces ressources-là soient dans les mains de nos frères en Afrique, en Haïti, et même en Europe et ici au Canada, pour ceux qui ont moins les moyens, t'sais, d'avoir ces ressources-là de disponibles. Donc ça, c'est un projet qui peut prendre un an ou deux, mais priez pour ça, parce que ça fait une différence dans la vie des églises. Fait que voilà pour Publication chrétienne. On est très encouragés, très encouragés. Le Seigneur bénit. On va prier. Notre Dieu et Père, on vient devant vous reconnaissant pour cette église locale ici à Sainte-Marie. Merci pour la vie qui y habite. On a vu les jeunes chanter. Quel rafraîchissement ça fait de voir ces jeunesses qui chantent et qui éventuellement vont prendre la place dans l'église locale. On vous prie que vous n'êtes pas un grand-père, qu'ils deviennent vos enfants, que vous soyez leur père. On vous demande maintenant de bénir l'étude de votre parole et l'encouragement que ça peut produire par votre Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Ne sais pas si vous savez c'est quoi la différence entre une mission et une vision dans une entreprise ou dans un ministère ou dans une église locale. La vision, ça répond à la question pourquoi on existe. Pourquoi on existe? Par exemple, à Publication chrétienne, notre vision, c'est. Ou si je prenais un autre exemple, si on prend un vol Québec-Toronto, la vision, c'est d'atterrir à Toronto. Quand j'ai atterri à Toronto, voilà, j'ai ma vision. C'est ça que je voulais. À Publication chrétienne, notre vision, c'est d'équiper les églises francophones le mieux possible. Ça, c'est la vision. Et vous comprenez que on n'y arrivera jamais. Ça n'arrivera pas un jour qu'on va dire, on ferme la shop, on arrive à Toronto en avion, on prend notre valise, puis on s'en va, c'est fini. Mais ça n'arrivera pas là, que on va avoir équipé l'église locale au maximum. La mission, c'est comment on va faire pour atteindre la vision. C'est quoi le chemin? Si on va à Toronto, la mission, ça va être de prendre l'avion, de voler à 20 000 pieds, à 800 000 à l'heure peut-être, puis d'arriver là dans 2 heures. La vision de l'Église locale, dans un sens large, elle a été donnée par le Seigneur dans Matthieu 28. Elle est faite de toutes les nations, des disciples, des enseignants. C'est la vision de l'Église locale. C'est une des raisons pourquoi on existe. La mission, comment on y arrive? Dans la mission d'une entreprise ou d'un ministère, il y a des descriptions de tâches. Chacun a un rôle. Si on est dans une entreprise, on n'est pas engagé dans une entreprise pour flâner toute la journée, là. On est engagé dans une entreprise pour exercer un travail. Et généralement, le travail a une description de tâche. Voici c'est quoi ta tâche. Et ce matin, dans Romains 12, je ne pense pas qu'à Sainte-Marie, les anciens ont donné des descriptions de tâches à tout le monde, mais dans un sens, Dieu donne une description de tâche. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ici qui fait partie de l'Église de Sainte-Marie qui est là pour flâner. Il n'y a personne dans l'Église de Sainte-Marie qui est là pour remplir une chaise le dimanche matin. On a un rôle actif à jouer. Hudson Taylor, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hudson Taylor, un missionnaire qui a œuvré en Chine dans les années 1800, Hudson Taylor, c'est un missionnaire qui venait des Assemblées de frères. Il a travaillé là 51 ans en Chine. Avec son ministère, ils ont fondé 125 écoles, 500 ouvriers, 18 000 croyants qui sont venus au Seigneur, 18 000 Chinois qui sont venus au Seigneur, et 300 églises qui ont été fondées. Donc, Hudson Taylor était une colonne du ministère, une colonne missionnaire en Chine. Et un jour, Hudson Taylor est invité en Australie, à Melbourne, pour une conférence. Et le monsieur qu'il présente en a ça de long à dire sur qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. Et vous savez, lui écoutait ça. Et Hudson Taylor arrive au micro et il a resté silencieux un peu et il a commencé son message en disant: Je suis le plus petit serviteur d'un illustre maître. C'était un monsieur qui était humble. Un peu comme le petit garçon dans Jean 6, qui avait 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule. N'a pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose pour aller au bac, lui-là. Il était très limité. Mais il a tout mis ce qu'il avait au service d'un Seigneur qui, lui, est illimité. Et Dieu a béni. Et c'est là la vision qu'on doit avoir de chacun de nous. Des gens qui sont limités, mais qui travaillent avec un Seigneur qui est illimité dans son Église locale. Et on va lire Romains 12, versets 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans le verset 2, on avait lu, ou on pourrait lire, Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le mot important, c'est transformer, métamorphoser. C'est une translittération. Métamorphoser, c'est le mot qui est utilisé en grec, d'être métamorphosé, d'être transformé, d'être changé à l'image de Jésus-Christ. Et on ne fait pas ça par nous-mêmes. On fait ça par le Saint-Esprit qui habite en nous. On peut être transformé. Et les pensées que j'ai à partager ce matin, là, ce n'est pas de la haute voltige théologique, ce n'est pas un vocabulaire très élaboré, mais c'est la vraie vie du croyant. C'est du pratique. D'abord, avoir une juste perception de nous-mêmes dans le verset 3. On va voir trois perceptions, une juste perception de nous-mêmes, une juste perception de l'ensemble et finalement une juste perception de nos dons. Mais une juste perception de nous-mêmes. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On sait tous que la parole de Dieu, chaque mot, hein, on croit à l'inspiration verbale et plénière. Ça veut dire que chaque mot est inspiré de Dieu. Évidemment, on parle des textes originaux, des autographes qu'on appelle, qui n'existent plus, mais même s'ils n'existent plus, vous savez, il existe tellement de manuscrits des textes du Nouveau Testament qu'on a la certitude que la Bible qu'on a, c'est ce qu'il y avait dans les originaux. Même si les originaux n'existent plus. Et si Mario écrit quelque chose, puis que tout le monde le reproduit, mais on n'a plus celui de Mario, mais on compare tout le monde. On sait que c'est ça qui est écrit, là. Hein? On ne s'est pas tout trompé, là, à quelques variantes près. Mais la parole de Dieu, on a la conviction que ça vient de Dieu, que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Et on n'a pas de difficulté quand on arrive à faire de l'évangélisation, à insister auprès des incroyants qui doivent se convertir, qui doivent reconnaître leurs péchés, parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais là, ce matin, la parole de Dieu ne s'adresse pas à des inconvertis, ne s'adresse pas à nous pour aller faire de l'évangélisation, elle s'adresse à nous pour être transformés, pour qu'elle ait un impact dans notre vie, qu'on change, c'est ça que ça veut dire, transformer, là. Qu'on soit changé par la prédication de la parole de Dieu. Que ce que Dieu dit a un impact dans ma vie. Et ce qu'il dit, c'est de ne pas, ça c'est négatif, hein? Ne pas, c'est négatif. Je n'apprends rien. Ne pas avoir une trop haute opinion de soi-même. De ne pas se faire une idée exagérée de l'importance qu'on a dans l'Église locale ou dans un quelconque ministère. Je ne sais pas si des fois, vous êtes comme le petit chat qui se regarde dans le miroir puis il voit un lion dans le miroir. C'est un petit chat, pas un lion. C'est un petit chat. Des fois, tu sais, on se voit tellement important, tellement grand, tellement utile, tellement... Écoute, je ne sais pas comment l'Église ferait si je n'étais pas là. Hein? Je suis un cadeau de Dieu pour l'Église et du monde, pour le monde en général, là. Des fois, peut-être on peut penser comme ça de nous-mêmes. J'exagère. Je suis certain que personne pense autant. Mais des fois, on a l'impression, et je vous avoue que des fois, moi, je me dis, je ne sais pas comment on ferait si telle personne, soit publication chrétienne ou ailleurs, si on perdait telle personne, on serait vraiment dans le trouble. Et là, j'imagine Dieu qui me regarde penser et qui dit, « Hey, mon petit homme, c'est pas à toi le ministère, c'est à moi. Laisse-moi aller, là. C'est pas une personne qui va faire crouler mon projet, là. Laisse-moi aller. Laissons Dieu être Dieu et soyons des serviteurs. Hein? » Des sentiments modestes. Dans l'original, c'est un mot, phronéo. Modération, réserve, retenue dans l'appréciation de nous-mêmes. Ayons une juste opinion de nous-mêmes. Et si on a une juste opinion de nous-mêmes, forcément, on aura une opinion humble parce qu'on va reconnaître que si on est... Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas être utile puis que vous êtes inutile puis que vous êtes une gang de faibles. Pas ça que je dis, là. Au contraire. Mais si quelqu'un est utile, si quelqu'un a quelque valeur que ce soit, c'est grâce à Dieu. Donc, ayons une juste opinion de nous-mêmes, humblement. Oui, Dieu travaille, j'espère que Dieu travaille au travers de moi et que je ne suis pas simplement quelqu'un qui remplit une chaise, mais ça ne me donne aucune gloire. Et si ça m'en donnait, Honte à moi. C'est Dieu qu'on veut glorifier. On est là pour glorifier Dieu. Donc, ayons des sentiments modérés, réservés, retenus dans l'appréciation de nous-mêmes. C'est ça que Paul, il est en train de parler du rôle du corps et il dit, ayez des pensées modérées chacun de vous en commençant. Et écoutez, ça transpire dans le Nouveau Testament. Éphésiens 3, verset 1, je vais vous citer quelques versets en rafale. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. Colossiens 3, verset 12, ainsi comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur. Pierre aussi, dans 1 Pierre 3,8, 1 Pierre 5,5, va parler que nous soyons revêtus d'humilité. Et quand on va être revêtu d'humilité, on pourra considérer qu'on ressemble à Jésus-Christ. Il n'est pas venu ici dans toute sa splendide gloire extérieure, comme on a lu ce matin dans Marc 9, hein? Il est venu dans une humilité unique. Et c'est lui qu'on veut, à qui on veut ressembler. Donc, soyons un peu comme des éponges. Vous savez, une éponge, c'est un peu comme des enfants. Ça, quand on pèse dessus, là, ce qui sort, c'est ce qu'on a mis dedans. C'est tout. Si on met de l'eau dans l'éponge, on pèse dessus, il sort de l'eau. Si on met du vinaigre, il sort du vinaigre. Donc, soyons comme des éponges remplies du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit des valeurs spirituelles et c'est ça qui va sortir. Ce n'est pas nous-mêmes qui va sortir. Selon la mesure de foi départie à chacun. Bon, là, il y a deux. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut-tu dire que quelqu'un a été sauvé, plus sauvé qu'un autre parce qu'il a eu plus de foi qu'un autre ou Dieu lui a donné plus de foi? Ce n'est pas la foi qui sauve ici. C'est la foi qui est engagée. C'est la foi qui est manifestée. C'est-à-dire notre capacité de faire confiance à quelqu'un, de croire quelqu'un pour ce qu'il a dit, selon la mesure de foi départie à chacun. Dans quelle mesure on fait confiance à Dieu? On croit ce que Dieu a dit. Il y a un livre qui dit « Croire Dieu », je ne me rappelle plus du titre, « Croire Dieu mot pour mot », quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'on croit Dieu? C'est la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Et cette mesure-là, elle est individuelle. Parce que on a tous la même capacité de croire en Dieu, mais des fois, écoutez, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, je ne vais pas me citer en exemple parce que je ne suis pas un exemple, je le sais. Quand on a vendu le bâtiment à Publication chrétienne, la première fois, on signe un offre d'achat. En fait, c'est ça, avec l'acheteur. On signe un offre d'achat. Merci Seigneur. Il nous donne 20 000 $ de plus qu'on demandait. Merci Seigneur. Le Seigneur est bon. Et on avance avec ça, mais pour l'acheteur, ça prend 60 jours pour qu'il fasse affaire avec la caisse ou la banque, puis eux autres font une inspection, genre, en tout cas, c'est une histoire. Et après 60 jours, ils ne passent pas au crédit. Hé, ils ne passent pas au crédit. Seigneur, comment ça se fait? Moi, je te faisais confiance, puis là, tu sais, je me retrouve, là, on a des réparations, on a des rénovations, des aménagements qu'il faut payer. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Tu nous as tout oublié. Et finalement, dans les rénovations, on s'aperçoit que Il y a tout un bout de mur qui n'a pas de solage, qui est direct sur la gravelle. Ça ne marche pas partout. Il faut tout stopper les travaux. Et si le premier acheteur avait passé, on se retrouvait dans la rue avec un bâtiment qu'on ne pouvait pas habiter encore. Merci Seigneur. Seigneur sait toute chose. Lui sait ce que nous, on ne sait pas. On signe une deuxième offre d'achat, 60 jours encore. Merci Seigneur. Là, ce fois-là, c'est sur le prix. Ce n'est pas grave. Mais j'ai appris de la première fois que Dieu contrôle toute chose. Et on peut avancer dans la paix. Et après 60 jours, passe pas encore au crédit. J'ai rien appris de la première fois. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu m'as oublié. Qu'est-ce qui va arriver avec notre ministère? T'sais, on a des réparations. Il sait, là, t'sais. Fait que, toujours est-il que le monsieur qui fait les réparations ou la compagnie, pour eux autres, ça coûtait 275 000. Oh, c'est pas grand-chose. Je dis, c'est pas grave, on peut attendre un peu. Puis c'est pas grand-chose. Moi, c'est pas mal, mais en tout cas, il peut attendre. Bon, mais j'avais pas tellement appris de ce que Dieu m'avait montré. Et on signe une troisième offre d'achat, 60 jours. Ça fait trois fois 60 jours. Hein? Ça fait 6 mois, là. Ça va faire 6 mois. Et après 60 jours, passe pas au crédit encore. Ben écoutez, j'ai été des nuits. Ça a été ma pire année en passant, là, 2023, 2022. Des nuits à pas dormir, à me réveiller la nuit, à me dire, Seigneur, Et Seigneur, dis, fais-moi confiance. Oui, je veux te faire confiance, mais j'aimerais ça contrôler, par exemple. Le Seigneur, ça ne marche pas de même. Moi, je contrôle. Et le troisième qui n'a pas passé au crédit, il nous a dit, inquiétez-vous pas, je vais trouver du financement privé. Et c'est ça qu'il a fait. Finalement, ça a fini par fonctionner. Mais vous voyez, ça, trois fois, là, un peu comme Pierre, là, tu sais, je me suis reconnu dans Pierre. Il ne comprend pas, là, tu sais, je n'ai pas compris non plus. Fait que quand je vous dis, faisons confiance à Dieu, je suis pas un exemple. Malheureusement, je suis pas un exemple. Je sais, je vous le dis, mais Dieu est un Dieu fidèle, un Dieu qui contrôle absolument toutes choses. Et même si on n'a pas toute la grande image, Dieu sait ce qu'il fait. Mario regarde l'heure. Ça me met de la pression. Donc, faisons confiance à Dieu. Dieu est celui qui nous dirige dans l'Église. Voilà pour la mesure de foi. Une juste perception de l'ensemble. Et ça, c'est le cœur. Ça, c'est le cœur. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Écoutez, la question n'est pas de savoir si vous faites partie du corps. Vous faites partie du corps. À partir du moment que vous vous convertissez à Dieu, vous faites partie du corps. La question, c'est de savoir, est-ce que vous remplissez votre rôle dans le corps de l'Église universelle. Ça, c'est trop large, là. On n'ira pas là-dedans. L'Église locale, à Sainte-Marie. Est-ce que vous remplissez votre rôle à Sainte-Marie? Moi, je n'ai pas de rôle. Nous qui s'occupons de l'Église, pas d'affaires. Non, 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 non. Dieu n'a pas sauvé personne pour les faire asseoir sur une chaise et dire, toi, ton but, c'est de remplir une chaise. Viens écouter, remplis la chaise, puis ça va être correct. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. On est membre de l'Église locale. On ne peut pas être en dehors. Membre de rien, ça n'existe pas, cela. Tu sais, je ne peux pas être membre de rien. Je suis membre de l'Église locale. Et Dieu fait une allusion, Paul fait une allusion au corps. Et je ne sais pas si vous avez des petits bobos des fouets, mais que ce soit la main, un œil, une dent, que, si vous en avez, que ce soit un genou, un pied, n'importe quelle partie du corps. Moi, je ne sais pas ce que j'ai, là, j'ai. On a un physio qui est à Saint-Jean, Yann Doiron, j'étais le voir. Il m'a dit ce que j'avais, mais je ne me rappelle pas. D'un genou, là, que il n'écoute pas. Là, le genou, là, il ne fait pas ce que je veux. Puis ça. C'est juste un genou, pas grand-chose, là. Mais je dors pas bien. Des positions difficiles, de la misère à marcher des fois. Mon genou, j'en ai besoin. Et si c'était la main ou n'importe quoi, j'en ai besoin. Vous êtes un membre du corps de l'Église locale à Sainte-Marie et l'Église a besoin de chacun de vous. Il y a un petit traité que. Je ne me rappelle plus qui avait écrit ça, peut-être t'en rappelles, Raymond. Qu'êtes-vous, une aide ou une entrave? Qu'est-ce que vous êtes, une aide ou une entrave? Non, ce n'était pas M. Bernier, ça venait de Vevey. Mais en tout cas, soyez utiles. C'est ça que le texte nous dit, qu'on a tous un rôle dans l'Église locale. Nous formons un seul corps en Christ. Un seul corps. Faisons attention de ne pas penser qu'on est un homme orchestre. Dieu a donné plusieurs dons à l'Église et je n'ai pas vu nulle part qu'il a donné tous les dons à une seule personne. Hein? On a été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Assurez-vous de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous et non pas celles du voisin qui, lui, de toute façon, si on fait ses œuvres, ben, il va rester assis sur sa chaise, puis il va être un assistant, quelqu'un qui assiste. Laissons les frères, les sœurs exercer leurs dons dans l'Église, leur ministère, et soyons pas comme Ozias dans Deux Chroniques. Qui lui a voulu offrir des parfums. C'était pas sa job. C'était pas sa job à Ozias. Ozias était roi et il n'y avait pas d'affaire à aller dans le sanctuaire pour offrir des parfums. Mais lui était roi et il s'est dit, moi, on va le faire pareil. Là, puis ça n'a pas marché. Et soyons pas non plus comme Jonas, qui lui a décidé que ce que Dieu lui demandait, ça ne convenait pas, parce qu'il avait vu de quoi que Dieu n'avait pas vu. Donc Jonas s'est dit, Seigneur, faudrait que tu viennes me voir parce que là, je vais t'instruire. Hein? Ça ne marche pas comme ça. Dieu nous met à cœur des choses dans l'Église locale. Exerçons notre ministère pour l'utilité commune. Je ne sais pas si. Tu sais, si je demande à Mario, es-tu capable de déchirer ces pages-là? Je suis certain qu'il va dire, je ne le laisserai pas faire parce que c'est mon message, là, mais. Il serait capable. Si j'ai dit, Mario, j'aimerais ça que tu déchires ce gros livre, ben, pas celui-là, là, mais un autre gros livre, un dictionnaire, ne pense pas que Mario va être capable. Il y a un proverbe africain qui dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Soyons unis dans l'Église locale pour notre vision, faire des disciples de Jésus-Christ. Et le temps est passé, mais une juste perception de nos dons, les versets 6 à 8, Paul énumère des dons, prophétiser, le ministère, enseigner, exhorter, libéralité, présider, pratiquer la miséricorde. Et j'aimerais juste dégager, exhorter parmi tout ça, parce que ça s'adresse à tout le monde. Exhorter. Ça vient du mot paracléo, para à côté, hein, des œuvres parascolaires à côté. Cléo, c'est parler. Parler à côté de quelqu'un. Ça veut dire accompagner quelqu'un. Exhorter, ça ne veut pas juste dire, hey, t'es pas bien habillé le matin. C'est pas ça, là. C'est encourager quelqu'un. Et ça s'adresse à tout le monde, les frères, les sœurs, les jeunes, les moins jeunes. On peut accompagner quelqu'un, soit dans une épreuve quelconque, ou soit pour l'accompagner dans un ministère, pour l'encourager, pour le remercier. Ça, chacun de vous, frères et sœurs, pouvez faire ça. C'est de réconforter, encourager, je l'ai dit, avertir, affirmer. Oui, ça peut être pour dire à quelqu'un, fais attention, tu prends des décisions dangereuses pour ta vie et pour l'Église. Oui, ça peut être ça. Et si vous ne le faites pas, qui va le faire? Hein? Si on voit quelqu'un qui se dirige à côté de la traque, si vous ne le faites pas, c'est qui va le faire à Saint-Jean, pas Saint-Jean, à Sainte-Marie? C'est votre responsabilité de le faire. Parce qu'on s'aime les uns les autres, il faut prendre quelqu'un puis le ramener. C'est sûr que s'il force trop puis il veut s'en aller, bon, mais à un moment donné, chacun a ses responsabilités. Mais pour ça, il faut avoir l'œil ouvert. Il faut voir l'ensemble et il faut être capable de reconnaître une situation difficile et aller reprendre avec amour les frères et les sœurs. Et ça, c'est votre responsabilité de le faire. Donc, voyez le texte qu'on a ce matin devant nous, c'est un encouragement pour que l'Église locale se sente ensemble, que chacun sente qu'il y a un rôle. Ce n'est pas l'affaire des anciens et des diacres de runner l'Église locale. De superviser, oui, mais de participer, non. Superviser, c'est le rôle du leadership. Mais de participer, ça, c'est tout le monde ensemble. Et si on ne le fait pas, imaginez, par exemple, je pensais tantôt à toi, mon cher Jonathan, je pensais, parce que tu as des enfants. Et mettons que tu donnes à Mario le lunch de tes enfants pour l'école demain midi, puis tu dis, Mario, tu peux-tu apporter ça à mes enfants demain midi? Et que Mario, il ne le fait pas. Hey! Je t'ai donné ça pour mes enfants, puis tu ne l'as pas fait. Dieu donne des responsabilités à chacun de vous, frères et sœurs, pour ses enfants. Puis tu ne l'as pas fait. Je ne dis pas que vous ne l'avez pas fait, mais c'est une responsabilité de le faire. Et un jour, on va paraître devant Dieu et on répondra de comment on a traité l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Et pensons pas à l'Église universelle, c'est trop large. On peut être noyé là-dedans, puis on est un no-name. Pensons à l'Église locale, ici à Sainte-Marie. Notre Dieu et Père, encore une fois, on veut vous remercier pour le privilège qu'on a d'ouvrir votre parole, d'être instruit par la Bible, par votre Saint-Esprit. On ne veut pas être inattentif, on veut répondre à cet appel ce matin de s'impliquer pour l'avancement de l'Église à Sainte-Marie. On est reconnaissant du témoignage et on veut vous demander, notre Dieu, que chacun puisse être encouragé de participer. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, on prie. Amen.